Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le cessez-le-feu est-il en sursis au Moyen-Orient? Les frappes ont repris entre l'Iran et les États-Unis qui s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve en vigueur depuis un mois. Dans l'Aisne, l'ex-petite amie de Chloé est passée aux aveux. Il a bien porté les coups de couteau, mais nie toute volonté de tuer l'adolescente retrouvée morte avant-hier sur le chemin du collège. Et puis Strasbourg passe à côté de son rêve européen. Les Alsaciens battus 1-0 par le Rayo Vallecano aux portes de la finale de Ligue Conférence.
Un cessez-le-feu de plus en plus fragile entre les États-Unis et l'Iran.
Nouveau regain de tension. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu un mois tout juste après l'avoir conclu. Lucas Laubert, vous êtes en direct avec nous ce matin sur RMC. Les frappes ont repris hier, Lucas.
Oui, les États-Unis affirment avoir visé des installations iraniennes. Des frappes de riposte, selon Washington, après des attaques contre trois navires militaires traversant le détroit d'Ormuz. Selon la télévision d'État iranienne, ces attaques étaient là aussi une réponse après que les Américains ont ciblé deux bateaux, dont un pétrolier iranien. Alors, faut-il craindre pour la trêve? Non, dit Donald Trump. Interrogé par des journalistes, le président américain affirme que le cessez-le-feu tient toujours.
Ils ont joué avec nous aujourd'hui et nous les avons balayés. Ils ont joué, j'appelle ça une broutille.
Donald Trump maintient tout de même la pression sur l'Iran. Hier, il a de nouveau appelé Téhéran à signer un accord rapidement, sous peine d'être frappé bien plus lourdement à l'avenir.
Explication de Lucas Laubert sur RMC. Des tensions qui risquent de faire grimper à nouveau le cours du pétrole et donc le prix des carburants. Le gouvernement a diffusé une circulaire hier pour inciter les fonctionnaires à faire plus de télétravail. Compliqué par contre de jouer un match de foot en distanciel à cause de la flambée des prix. Certains clubs amateurs sont contraints de faire une croix sur des tournois. C'est le cas du club de Quillan dans l'Aude qui n'enverra pas ses joueurs jouer aujourd'hui. Reportage de notre correspondant Jean-Wilfried Forquès.
Depuis plusieurs semaines, il y a moins de déplacements pour l'équipe de Dylan et Gauthier, tous les deux âgés de 8 ans.
C'est frustrant parce que avec mon équipe, on a envie de jouer et on peut pas jouer à cause de l'essence.
Moi, ça me saoule qu'on puisse plus déplacer autant qu'avant, tous les samedis. Maintenant, je dois le faire une fois sur 3 ou une fois sur 2.
Allez, on y va les gars. Intérieur pied gauche.
Comme beaucoup de proches, Jacqueline, la grand-mère de Jean, ne peut pas suivre toutes les rencontres.
Vu le prix de l'essence, on a des petites retraites et on peut pas aller où on veut, quoi. On a un choix à faire.
Et Guillaume Lacroix, le président, doit surveiller les finances de son club en faisant par exemple l'impasse sur le tournoi des jeunes aujourd'hui à Carcassonne.
Kia, on est à 45 minutes, donc ça veut dire on est à 50-55 km. Voilà, on a privilégié par exemple la semaine d'après un tournoi à Limoux qui est à 25 km.
Le club de Quillan bénéficie de bons de carburant offerts par le district de football, des bons de 15 euros pour chaque équipe de jeunes. Geste symbolique, mais très apprécié.
Il est 7h03 sur RMC, un peu plus de 24 heures après la mort d'une collégienne de 14 ans dans l'Aisne. Le principal suspect est passé aux aveux.
Un homme de 23 ans, interpellé quelques heures après la découverte du corps de l'adolescente sur le chemin du collège. Maxime Clieruza, service police-justice d'RMC. Il s'agit donc bien de son ex-petite amie et il a avoué une partie des faits.
Pendant sa garde à vue, il a reconnu sa présence sur les lieux du meurtre et surtout, il a reconnu avoir frappé à l'aide d'un couteau son ex-petite amie dont il était récemment séparé. Mais il nie toute intention de tuer la collégienne. Pourtant, selon les proches de l'adolescente décédée, il avait par téléphone, quelques jours plus tôt, menacé de mort sa victime, mais aussi son entourage. Et ce n'est pas la première fois que son ex-petite amie est présentée à la justice. En 2023 déjà, ce jeune sans emploi avait été interpellé pour port d'armes sans motif légitime, sans que le parquet nous précise s'il s'agissait ou non d'une arme blanche.
Ni le début d'une épidémie, ni d'une pandémie tempère l'Organisation mondiale de la santé face à l'inquiétude suscitée par l'antavirus, infection contractée par plusieurs passagers de cette croisière sur l'Atlantique. Le bateau attendu aux Canaries dimanche pour évacuer le reste des passagers. Le risque de propagation est limité, dit l'OMS, si les mesures de santé publique sont mises en œuvre. Certains cas contacts sont déjà identifiés. Solène Leroux, comment sont-ils pris en charge?
Eh bien, tout dépend de leur état de santé, dit l'OMS. Pour une personne avec des symptômes, la règle, c'est l'isolement et un test pour confirmer ou non l'antivirus. S'il n'y a pas de signe de maladie, il est recommandé de surveiller activement sa santé et puis évidemment de signaler tout changement rapidement. En France, 8 cas contacts sont désormais identifiés. Les autorités sanitaires leur ont proposé par précaution d'être dépistés et isolés. Pour le seul qui présente effectivement des symptômes, bénin, il a été isolé et testé d'office.
L'OMS, Solène, doit en urgence retrouver d'autres cas contacts.
Oui, en commençant par retrouver la trace des passagers du MV Andus, ceux qui ont débarqué à Sainte-Hélène le 24 avril, avant même que l'on apprenne l'existence du cluster dimanche dernier. Dans un premier temps, c'est la compagnie maritime qui les a tous avertis. C'est d'ailleurs comme ça, précise l'OMS, qu'un passager suisse s'est déclaré de lui-même après avoir ressenti des symptômes. Il a depuis été testé positif à l'antivirus. Il faut ensuite retrouver tous ceux qui ont croisé la route de ces vacanciers lors de leur vol retour, par exemple, ou encore dans les hôpitaux fréquentés par les malades, comme l'établissement sud-africain où une néerlandaise contaminée est décédée.
Précision de Solène Leroux, spécialiste santé d'RMC.
Et puis il n'y aura donc finalement qu'un seul club français en finale de la Coupe d'Europe.
Strasbourg a échoué à atteindre la dernière marche de Ligue Conférence, battue 1-0 hier soir par le Rayo Vallecano comme à l'aller. Jamais les Alsaciens n'ont réussi à faire trembler les Espagnols. Les joueurs du Racing sont passés à côté de leur match, Clément Brossard.
Les sifflets du public de la Méno dès la mi-temps, alors que le score était de 0-0, montraient déjà la frustration des supporters en colère à la fin du match.
Je sais pas ce qui s'est passé, ils étaient à côté.
Physiquement, ils étaient cramés ce soir.
On n'a pas donné ce qu'on sait faire sur le terrain, c'est ça qui m'énerve le plus.
Le milieu de terrain Diego Moreira assume, Strasbourg n'était pas au niveau hier soir.
Qu'est-ce qui a manqué ce soir ?
Tout. Un peu un manque d'envie de tout le monde, d'efficacité devant le but, de collectivité. Il y avait des choses à rectifier, mais qui n'ont pas été rectifiées pendant le match.
Protecteur, l'entraîneur alsacien Gary O'Neill tenait lui à souligner qu'il était difficile pour son jeune groupe de rivaliser.
It's the club's first year.
C'est la première année où l'équipe joue autant de matchs et le groupe n'était pas préparé à ça. Les autres clubs européens qui jouent autant sont le PSG ou le Bayern. Ils ont deux équipes à aligner sur le terrain, pas nous. Je suis fier de notre parcours, mais contre le Rayo Vallecano, on n'avait pas le niveau.
Pour Diego Moreira, tout n'est pas à jeter.
On est fier quand même d'être arrivé jusqu'ici. On a aussi marqué un petit bout de l'histoire de Strasbourg.
Même si l'an prochain, sauf miracle, Strasbourg sera absent de toute compétition européenne.
Le Rayo Vallecano affrontera donc en finale Crystal Palace le 27 mai. Les Anglais vainqueurs du Shakhtar Donetsk de 2-1. Rien ne va plus au Real Madrid après une altercation verbale mercredi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs en sont venus aux mains hier. Le milieu de terrain uruguayen souffre d'un traumatisme crânien. Toutes les explications dans le journal de 7h30. Et puis c'est la fin d'une époque. La FIFA met fin à son partenariat historique avec Panini pour la Coupe du Monde. Les vignettes cultes de l'entreprise italiennes laisseront place dès 2031 à celle de l'américain Fanatics.
Incroyable.
Ouais, ça date depuis 1970.
Oui, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une continuité là-dessus. Bon, c'était le journal de Clara Gabillet.